Le dossier Nickel, c'est l'un des volets sur lequel travaille la mission interministérielle présidée par Claire Durieux, qui était ce matin notre invitée. Elle a évoqué les leviers envisagés pour permettre aux métallurgistes de retrouver de la rentabilité. Dématérialiser la chaîne comptable et financière des directions et établissements publics de Nouvelle-Calédonie, le chantier est lancé par le gouvernement. L'IFAP et l'Agence rurale sont pour l'instant les établissements pilotes. À l'étranger, le régime iranien vacille. Pour le 12e jour consécutif, des milliers d'Iraniens manifestent contre le pouvoir. Certains dignitaires du régime auraient déjà préparé leur exil. La libération de Laurent Vinatier, ce Français incarcéré en Russie, a été échangée contre un basketteur russe accusé de fraude informatique. Et puis dans la page sport, le premier titre de l'année pour le PSG qui bat Marseille et remporte le trophée des champions du tennis avec les demi-finales du BNC Tennis Open à Nouméa et la suite de nos grandes rétros 2025. À la fin de ce journal, retour sur les grands événements et exploits qui ont marqué le sport sur la scène nationale et internationale. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Une réunion dans les locaux de PRNC à Nouméa. La direction de Prony Resources reçoit les sous-traitants du Sud. Ces rouleurs sont mobilisés depuis mardi devant l'usine de Goro pour réclamer une revalorisation de leur taux horaire. Il était de 10 200 francs il y a encore quelques années et aujourd'hui il est de 8 700 francs. PRNC souhaiterait encore le diminuer à 7 500 francs. Les négociations à ce sujet durent depuis plusieurs mois et semblent désormais dans l'impasse. Une réunion est donc en cours actuellement. Le dossier Nickel, c'est l'un des dossiers sur lequel travaille la mission interministérielle de reconstruction dirigée par Claire Durieux. Actuellement sur le territoire, elle était notre invitée ce matin à 7h30. Deux leviers existent pour permettre aux métallurgistes d'être de nouveau rentables, a-t-elle expliqué.
Vous le savez, les usines de transformation sont dans une situation extraordinairement difficile. Elles ne sont pas rentables. Elles perdent des centaines de millions d'euros par an. Et donc l'État intervient en soutien, mais il ne pourra plus intervenir si on ne retrouve pas des perspectives de rentabilité. Donc si on ne trouve pas un chemin pour que ça redevienne rentable, au moins à horizon 2028, 2029, 2030. Et donc pour ça, les potentiels repreneurs disent très clairement, pour qu'on reprenne et pour qu'il y ait un chemin de retour à la rentabilité, il y a deux conditions sine qua non cumulatives. Un soutien massif de l'État. Bon, ça c'est un levier qui appartient à l'État. Il faudra qu'il y ait des décisions. Et deux, il faut qu'on puisse exporter les résidus non valorisables. C'est-à-dire le minerai qui, en fait, est d'une teneur trop faible pour être transformé sur place, sur le territoire, qui aujourd'hui ne peut pas être exporté, mais qui a une valeur sur le marché mondial. L'export de ces résidus non valorisables, ça dépend d'une loi de pays, ça dépend uniquement du territoire, et ça, c'est dans les mains des élus. Donc, effectivement, les repreneurs ont mis le sujet sur la table, et maintenant, il appartient au territoire de savoir s'ils souhaitent ou non sauver ces usines.
Le dossier Nickel est donc au cœur du travail de la mission interministérielle ces jours-ci, qui doit aussi préparer la rencontre du 16 janvier à Paris avec le président de la République. Quant au pacte de refondation proposé par le Premier ministre, il est actuellement en discussion. C'est l'un des points sur lequel la mission interministérielle a avancé ces dernières semaines, nous a dit Claire Durieux.
De mi-octobre à aujourd'hui, donc depuis deux mois et demi, il y a un certain nombre de choses qui ont avancé. Sur les trois objectifs qu'on s'était fixés. On s'était fixé, d'ici fin 25, d'avoir établi un plan de relance. Bon, il y a la proposition du Premier ministre qui a été faite aux élus en date du 4 décembre 2025, qui propose un pacte de refondation économique du territoire sur 5 ans, très ambitieux, qui donne de la visibilité sur 5 ans, à la fois sur les sujets de finances publiques, bien sûr, mais aussi sur les sujets d'emploi, d'attractivité, de relance par des grands investissements, mais aussi sur des sujets sociaux, pour la jeunesse en particulier, et le nickel. Et c'est des centaines de milliards de francs sur 5 ans. Donc ça, c'est important, c'est-à-dire que tout le travail qui a été fait, certes par la mission, mais surtout par les acteurs du territoire depuis octobre, a été pris en compte dans cette proposition.
Mais ce pacte de refondation ne pourra se déployer que si la France adopte son budget 2026 et notamment le projet de loi de finances, ce qui n'est pas le cas pour l'instant.
En fait, s'il n'y a pas de projet de loi de finances, il n'y a pas de financement nouveau possible. Enfin, c'est une évidence, mais dans la proposition de pacte du Premier ministre, il y a beaucoup d'argent. Cet argent, il doit être dans le projet de loi de finances, espérons-le, si les parlementaires le décident, en tout cas le gouvernement l'a souhaité. Et donc, s'il n'y a pas de projet de loi de finances, on ne pourra pas mettre en œuvre...
C'est le seul moyen aujourd'hui pour pouvoir bénéficier, entre guillemets, d'une enveloppe supplémentaire et spécifique pour la Nouvelle-Calédonie et pour la mise en œuvre de ce pacte.
Absolument.
L'intégralité de cet entretien avec Claire Durieux est à retrouver sur rrb.nc. À propos du budget de la France, Amélie de Montchalin n'exclut pas un recours au 49-3 à la fin du mois si les parlementaires ne réussissent pas à s'entendre. La ministre de l'Action et des Comptes Publics était invitée de la chaîne parlementaire et a été interrogée par notre correspondant à Paris, Xavier Robert. Elle a rappelé l'intervention financière de l'État en Nouvelle-Calédonie après les émeutes de mai 2024. Elle a aussi été interrogée sur la question du remboursement des prêts garantis par l'État, mais aussi sur la question des assurances des biens et des personnes. Écoutez sa réponse.
Nous mettons, collectivement, nous tous Français, des moyens au service de nos concitoyens qui sont en Nouvelle-Calédonie. Savoir ensuite si nous devons traiter des points très spécifiques. Par exemple, l'élargissement du soutien fiscal à la reconstruction d'un certain nombre de locaux commerciaux et industriels. La réponse est évidemment oui. C'est une des dispositions d'ailleurs de la première partie du projet de loi. Et vous avez vu d'ailleurs que dans notre communiqué de presse du 30 décembre, avec le Premier ministre et l'ensemble du gouvernement, nous engageons à ce que cette mesure puisse s'appliquer rétroactivement dès le 1er janvier, dès qu'elle sera confirmée. Deuxième élément, vous me demandez sur les enjeux d'emprunt. A été voté au Sénat un élargissement du volume que garantissait l'État dans le cadre d'un prêt de l'Agence française de développement pour la Nouvelle-Calédonie. Vous m'interrogez sur la capacité de remboursement. Nous avons pris des décisions avec, à l'époque, Éric Lombard et les différents premiers ministres pour notamment étaler les remboursements et transformer une partie des prêts en subventions. Dernier élément, vous avez parlé des émeutes, des questions d'assurabilité. Il est pour nous primordial que nous arrivions à rendre les bâtiments individuels, commerciaux, industriels, assurables en Nouvelle-Calédonie de nouveau. C'est un objectif prioritaire, parce qu'un territoire qui ne peut pas s'assurer, c'est un territoire qui ne peut pas investir, c'est un territoire qui ne peut pas fonctionner.
Amélie de Montchalin, la ministre de l'Action et des Comptes Publics, à propos du sujet du remboursement des prêts garantis par l'État. Christopher Gigès, le porte-parole du gouvernement, a indiqué cette semaine que les discussions vont se poursuivre dès la semaine prochaine à Paris avec le Premier ministre Sébastien Lecornu.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est l'heure de votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu avec la réponse à la question d'hier et 86% des auditeurs de Radio Rythme Bleu qui se sont exprimés par SMS approuvent la décision du gouvernement de supprimer 2 jours chômés dans la fonction publique en 2026. Ils sont 14% à ne pas approuver cette décision. Voici notre question du jour. L'Europe doit-elle afficher une position ferme face à Donald Trump qui convoite le Groenland? Si vous pensez qu'elle doit afficher une position ferme, vous tapez 1. Sinon, vous tapez 2 et vous envoyez votre réponse au 3146. L'administration calédonienne passe à la vitesse supérieure sur le numérique. Le gouvernement a lancé un chantier de dématérialisation de la chaîne comptable et financière des directions et des établissements publics du territoire, Léana Colombo.
Des travaux qui ont débuté il y a déjà plusieurs mois, ce chantier s'inscrit dans le plan d'évolution de l'administration et bénéficie d'un soutien de l'État à hauteur de 42 millions de francs. Des conventions ont été signées ce matin pour sécuriser les échanges numériques, notamment avec la trésorerie et la chambre territoriale des comptes, une évolution qui permettra moins de paperasse, plus d'efficacité. Fini les dossiers papier pour les mandats, les recettes ou les pièces justificatives. Tout se fera désormais en ligne avec des procédures plus rapides et des paiements accélérés. Samuel Martinet est le chef de projet à la direction du budget des affaires financières au gouvernement de Nouvelle-Calédonie.
C'est près de 100 000 feuilles de papier qui sont envoyées par tous les établissements publics chaque année, qui vont progressivement être remplacées par des flux dématérialisés. Donc c'est des fichiers qui sont envoyés avec un protocole sécurisé vers le comptable public. Sur la cybersécurité, nous, on est alignés sur les protocoles de Bercy du ministère qui encapsulent les fichiers avec les informations comptables avec une signature enregistrée. Et ceci passe par les serveurs de Bercy pour redescendre auprès des comptables. Donc on est vraiment aligné sur le standard national et même européen pour la signature électronique. Donc une énorme économie de papier, de traitement, de vitesse de traitement, d'archivage, avec derrière des meilleurs contrôles et un meilleur délai de paiement.
L'IFAP et l'Agence rurale ont été sélectionnés pour être les 2 établissements pilotes du projet depuis fin novembre 2025. Ils ont donc pu expérimenter cette dématérialisation en premier et Laure Virapin, directrice de l'Agence rurale, constate un réel gain de temps.
Ça a été déjà beaucoup de travail pour les équipes, bien accompagné effectivement par les équipes du gouvernement. Ça a été du travail en fin d'année, qui est quand même la période la plus dense au niveau des paiements, les clôtures, etc. Et on a dû travailler en doublon, c'est-à-dire pendant 2 mois, on a fait papier et dématérialisation, là, pour être sûr que le système fonctionne. On pense que ça va nous apporter beaucoup de confort, une économie de papier évidemment, dans les processus également des simplifications, puis beaucoup de fluidité, puisque la numérisation, c'est aussi moins de déplacements, transporter ces papiers à la trésorerie, là tout est par flux numérique. Et ça ne peut apporter que du confort et des économies, bien sûr.
Prochaine étape, courant 2026, la dématérialisation sera étendue à une vingtaine d'établissements publics. Et en 2027, ce sont l'ensemble des services du gouvernement qui devraient à leur tour tourner définitivement la page du papier.
11 millions de subventions versées par la mairie de Dumbéa aux associations de la commune en 2025. Le maire Johan Lecourieux a adressé hier soir ses vœux aux membres des associations basées sur la commune. Fortement impactés pendant les émeutes, les bénévoles disent remonter la pente lentement. L'année 2025 aura été placée sous le signe du maintien, voire de la reconstruction, comme en témoignent ses représentants d'associations.
2025 qu'on a repris doucement, mais avec beaucoup moins de bénévoles, moins de subventions. On a fait avec ce qu'on a pu, on essaie de faire des petits trucs, mais toujours être présent sur le terrain.
2025, on va dire que ça a été mieux que 2024, parce que je pense qu'on ne peut pas faire pire que 2024. Ça a été bénéfique pour notre association, puisqu'on a pu, grâce donc aux bailleurs sociaux et à la ville de Dumbéa, disposer d'un local.
Contrairement à beaucoup d'associations, pour nous c'est une belle année, parce qu'on a concrétisé la réalisation de deux pistes de padel et qui ont redonné en fait de la vie au club. Soit on construisait les deux pistes de padel, soit on fermait le club.
Plus de 175 associations sont basées sur la commune de Dumbéa. Avant de marquer une première pause dans ce journal, je vous rappelle que c'est à 14h cet après-midi que va avoir lieu le grand tirage au sort pour notre jeu Chance qui est actuellement en cours. Alors pour participer, c'est très simple, vous le savez, il faut envoyer Chance au 40-20. Plus vous jouez, plus vous avez de chances de gagner. Un cadeau magnifique, n'est-ce pas Thierry, est en jeu cette fois-ci.
Oui, c'est un séjour à l'hôtel de Poé. Vous séjournerez 6 nuits en bungalow tout confort, cuisine équipée, terrasse et jardin privatif offert par l'hôtel de Poé, ainsi que 2 vols offerts par KPULM. On vous souhaite bien sûr une bonne chance, c'est un cadeau d'une valeur de 122 000 francs.
Voilà, donc pour gagner ce cadeau, c'est très simple. Vous envoyez dès maintenant Chance au 40-20. Ne tardez pas, je vous rappelle que le tirage au sort pour gagner ce magnifique lot, ce sera donc tout à l'heure à 14h. Il est 11h43, une pause et on en vient dans un instant à l'actualité à l'étranger en métropole. Nous commencerons par le dossier iranien. Alors que le régime semble vaciller, 13e jour de manifestation consécutive à Téhéran.
Toute l'info en 3 lettres, RRB.
L'équipe de Maridé est là pour vous offrir une journée de détente. Réservez votre place sur amedeisland.com.
Et Tantine, on est en janvier, tu peux enfin refaire tes lunettes. Chez Optique Bellevie, ils testent ta vue gratuitement et sans rendez-vous. Et en plus, t'auras tes progressives en 3 jours max.
Allez, direction Bellevie.
Optique Bellevie, toutes vos lunettes en 3 jours.
Le jeu Mac Family Voyage revient chez McDonald's du 18 novembre au 12 janvier. Collectionnez les cartes Mac Family et tentez de gagner plus de 6 millions de francs de cadeaux. Au programme, 3 voyages de rêve à Tahiti, en Thaïlande et à la Gold Coast. Mais aussi des PC, des Samsung S25, des Nintendo Switch 2, des Boombox et des milliers de produits McDonald's. Alors, prêt à tenter votre chance? Rendez-vous dans votre McDonald's préféré.
RRB, 11h-13h, Infomag, Jean-François Bodin.
L'actualité à l'étranger et le régime des mollahs fortement mis en question par le peuple iranien. Pour le 12e jour consécutif, des milliers de personnes manifestent dans tout le pays. La contestation ne faiblit pas. Charles Bouchin pour Europe 1.
Vous l'entendez, des milliers de manifestants sont descendus dans les rues de Téhéran aujourd'hui. C'est une journée test pour les oppositions iraniennes, notamment pour le prince Reza Pahlavi qui se positionne comme leader de l'opposition laïque et démocratique. Il a donné des slogans à scander contre le régime des mollahs, slogans largement repris partout en Iran, même dans les petites villes où là aussi des manifestations ont eu lieu. Et selon les informations qui nous parviennent, tout juste les gardiens de la révolution, bras armés de la République islamique aurait été déployé dans les rues. Il viendrait en soutien à la milice civile qui, depuis 12 jours, réprime ces grandes manifestations populaires. On apprend également ce soir que le réseau Internet a été coupé sur l'ensemble du territoire iranien, ce qui rend encore plus difficile de saisir avec précision la situation sur place.
Et Donald Trump continue de suivre la situation en Iran. Il promet de frapper fort le régime si les manifestations sont réprimées dans la violence. De leur côté, les observateurs estiment probable une chute du régime iranien. Parmi les signes révélés notamment par Emmanuel Razavier, grand reporter et spécialiste du Moyen-Orient, certains hauts dignitaires du régime préparent leur exil.
un certain nombre de hauts dignitaires, notamment en fait appartenant au clan dit réformateur de la République islamique d'Iran. Je rappelle que les réformateurs, c'est un clan mafieux. Hein. Un certain nombre en fait de ces dignitaires ont demandé via un avocat qui est à Paris à obtenir en fait des visas pour une partie de leur famille pour la France. Il y a une vingtaine de dignitaires qui sont concernés. Il se trouve que un certain nombre sont en train de faire défection en fait du régime, sont en train de clairement d'abandonner en fait hein, le régime et de mettre déjà leur famille à l'abri en Europe, tout au moins de tenter de les mettre à l'abri. Il y a en fait à Paris notamment, si vous voulez, des agents d'influence qui depuis des années travaillent justement à montrer ces réformateurs iraniens qui ont pourtant du sang sur les mains comme des gens fréquentables et pouvant représenter une alternative pour l'Iran. Je peux vous dire que pour avoir beaucoup enquêté, ce sont des gens qui ont du sang sur les mains, la France ne devrait pas les accueillir, ne pas accueillir leur famille.
Le grand reporter spécialiste du Moyen-Orient, Emmanuel Razavi, interrogé par nos confrères d'Europe 1. Emmanuel Macron annonce qu'il ne signera pas le Mercosur, cet accord de libre-échange entre l'Union européenne et les pays d'Amérique latine et du Sud. Le président français avait réussi à trouver une minorité de blocage, mais l'Italie a changé d'avis et l'accord devrait être signé la semaine prochaine sans le paraphe du chef de l'État. Cet accord provoque, on le sait, la colère du monde agricole en France qui s'estime lésé. Et si Emmanuel Macron a annoncé qu'il ne signerait pas l'accord, c'est aussi pour éviter une crise politique, car les oppositions dénoncent l'impuissance de Paris sur ce dossier. Le Rassemblement national a même déposé une motion de censure. On fait le point avec Alexis de la Fontaine.
L'ensemble des partis politiques réunis aujourd'hui à l'Élysée ont réaffirmé leur opposition au Mercosur. Isolé, Emmanuel Macron n'a pas eu d'autre choix que de s'aligner sur cette position. Avec cette décision, le chef de l'État évite la censure de son gouvernement, car le patron des Républicains, Bruno Retailleau, menaçait de renverser Sébastien Lecornu si la France soutenait le Mercosur. Sans budget pour l'année 2026, sans majorité à l'Assemblée nationale et devant la crise agricole, Emmanuel Macron ne voulait surtout pas aggraver la crise politique. Mais cette décision reste encore insuffisante pour les oppositions les plus radicales, car l'Union européenne signera quand même ce traité de libre-échange. Jordan Bardella annonce donc déposer deux motions de censure, une première au Parlement européen contre Ursula von der Leyen et une deuxième en France contre Sébastien Lecornu, même si elles n'ont quasiment aucune chance d'être adoptées. Marine Le Pen va encore plus loin et demande à Emmanuel Macron de suspendre la contribution française à l'Union européenne pour, je cite, « défendre les intérêts de notre nation ».
En Suisse, les gérants français du bar de Crans-Montana vont être auditionnés par la justice la nuit prochaine pour nous dans le cadre d'une enquête pour homicide par imprudence. Ils seront entendus dans un premier temps uniquement sur leur situation personnelle. Audition qui intervient le jour où la Suisse a décrété une journée de deuil national en mémoire des 40 victimes et en soutien aux 116 blessés causés par ce dramatique incendie dans la nuit de la Saint-Sylvestre. C'est une libération que l'on n'attendait pas vraiment. Laurent Vinatti a retrouvé la liberté. Cet ingénieur français était emprisonné dans une prison russe depuis un an et demi. Il aurait omis de s'enregistrer comme agent de l'étranger et risquait une lourde peine pour espionnage. Mais il a été gracié par Vladimir Poutine en échange d'un basketteur russe détenu en France, accusé de fraude informatique par les États-Unis. Maître Frédéric Bello est l'avocat de Laurent Vinatti.
Il a été échangé avec Dany Kazatkin. Dany Kazatkin a été réveillé à 3 heures du matin par les services français qui l'ont amené en avion en Russie. Monsieur Vinatti, lui, est monté dans l'avion et qui est rentré en France. Il est en bonne santé. Une très grande joie. Nous considérons qu'il est innocent.
Laurent Vinatti a pu retrouver sa famille au Quai d'Orsay. Innocent, déclare son avocat, tout comme le basketteur russe qu'il défend également.
Dany Kazatkin a été arrêté dans le cadre d'un mandat d'extradition vers les États-Unis où il est accusé de fraude informatique. Il ne connaît strictement rien en informatique, lui il fait juste du basket. Il a été remis aux autorités russes et donc libéré.
Voilà, maître Frédéric Bello, qui est l'avocat de Laurent Vinatti, qui a été donc libéré par le président russe et qui est aussi l'avocat du basketteur contre lequel il a été échangé. Il est 11h49, la dernière pause de ce journal avant de voir l'actualité sportive. Dans un petit instant, n'oubliez pas, juste après la page de sport, ce sera la rétro-sport de l'année 2025 sur la scène nationale et internationale.
RRB, 11h-13h, Infomag, Jean-François Bodin.
Chérie ?
Oui ?
Mais pourquoi t'as emballé notre fils avec du cellophane pour aller à la piscine ?
Bah, j'allais pas lui mettre une couche normale, va le sortir de l'eau après, moi je suis pas Hulk. Hein.
En plein été, t'avais qu'à descendre chez Cellocal au complexe Le 4. Ils ont des couches Huggy Swimmers.
Ah.
Bon, enlève-lui ça là, on dirait un plat emporté.
Cet été, choisissez les couches Huggy Swimmers chez Cellocal. Complexe Le 4, faites vos courses autrement.
La ville de Nouméa recrute des sapeurs-pompiers volontaires.
Si vous souhaitez travailler au centre de traitement de l'alerte situé à Normandie, vous avez jusqu'au 16 janvier pour postuler.
Et si vous préférez exercer dans un des deux centres de secours, vous pouvez candidater jusqu'au 6 février. Toutes les infos, conditions, phases de recrutement et dossiers de candidature sont disponibles sur le site de la ville www.nouméa.nc ou sur la page Facebook Nouméa Ma Ville.
Pour tout renseignement complémentaire, contactez le 24 38 18.
Formula 4D vous remercie pour votre confiance en 2025. En 2026, Formula 4D continue à protéger vos maisons et entreprises des nuisibles. Bonne année et meilleurs vœux.
L'Infomag continue avec le Village Automobile. Chevrolet, Citroën, DS Automobile, Great Wall, Haval, Isuzu, Mercedes-Benz, Opel, Peugeot, Power et Subaru. Ces 11 grandes marques réunies sur un seul site avec des offres exceptionnelles. Rendez-vous au Village Automobile au BK4 à Nouméa.
Tout le sport en trois lettres, RRB.
L'actualité sportive, on retrouve Jean-François Baudin.
Et on va commencer par le football et un nouveau trophée pour le Paris Saint-Germain. Les Parisiens ont dominé l'OM ce matin en finale du trophée des champions, Léo Fichou.
Oui, une victoire 3-2 après la séance de tir au but. Un match délocalisé qui se jouait au Koweït. Dès la 13e minute de jeu, c'est le ballon d'or. Ousmane Dembélé qui a ouvert le score pour le PSG avant que Mason Greenwood n'égalise pour l'OM dans le dernier quart d'heure du match. Les Marseillais qui ont même cru à la victoire puisqu'ils ont pris les devants à la 87e minute grâce à un but contre son camp du défenseur parisien Pacho. Mais Gonzalo Ramos, entré en jeu quelques minutes plus tôt, a égalisé au bout du temps additionnel pour le PSG 2-2. Tout s'est donc joué aux tirs au but. Et là, c'est un grand Lucas Chevalier, auteur de deux arrêts, qui a permis au PSG de s'imposer. On l'écoute.
Je suis toujours modéré parce que ça n'a pas été facile pendant 6 mois. Et même le match n'a pas été facile. Quand on prend le 2-1 à la 85e, on se demande s'il y a un truc qui ne va pas. Et au final, voilà, l'équipe n'a pas abandonné. Et je savais que si on allait au pénalty, que j'allais sortir. Parce que j'étais trop déterminé aujourd'hui pour aider l'équipe et pour faire gagner ce trophée. Donc voilà, je suis content, toujours modéré, mais très content pour moi et le Paris Saint-Germain.
Après une année 2025 exceptionnelle, les Parisiens démarrent 2026 de la meilleure des manières. Ils remportent leur 14e trophée des champions. Les Marseillais, eux, devront encore une fois attendre. Ils n'ont plus remporté de trophée depuis 2012, déjà une victoire en Coupe de la Ligue.
Les sports mécaniques avec la suite du Dakar et la 5e étape a été marquée par un triplé Ford dans la catégorie auto. C'est l'Américain Mitch Guthrie qui s'est imposé. Au général, Henk Lategan conserve la première place et Sébastien Loeb est toujours 8e à 18 minutes du leader. Dans la catégorie moto, nouveau changement en tête du classement général. L'Australien Daniel Sanders récupère sa place de leader. Le Français Adrien Van Beveren perd du temps et se retrouve 7e au général à 52 minutes du leader. Et puis on va évidemment parler de tennis à Nouméa, Léo, avec les quarts de finale du BNC Tennis Open hier soir qui ont livré quelques surprises.
Et oui, lors de la première rotation sur le court central, le favori et tête de série numéro 1 du tournoi, Jordan Thompson, s'est incliné en 2-7, 6-4, 6-4 contre Jurij Rodionov, l'Autrichien qui retrouve donc, comme l'an passé, les demi-finales du BNC Tennis Open.
Jordan Thompson est un joueur incroyable, c'est jamais facile de jouer contre lui, surtout avec ses conditions, il y avait beaucoup de vent. Je suis forcément très content de ma performance, j'étais prêt à tout donner et j'ai pu prendre mes chances et être consistant sur ce match.
En demi-finale, Jurij Rodionov affrontera un autre Australien, Blake Ellis, qui s'est défait de son compatriote Bernard Tomic en 3-7, 7-6, 3-6, 6-4. En revanche, fin de semaine nouméenne pour l'Australien Jordan Thompson, qui, avant même de jouer son quart de finale en simple, avait déclaré forfait pour sa demi-finale du double avec le Français Pierre Hugerbert. C'est donc la paire australienne de l'année, Peter Gill, qui est en finale et affrontera la paire japonaise, Kushuhara Nakagawa, tombeuse des Néo-Zélandais Reynolds Watt hier soir, donc en 3-7. Victoire des Japonais 7-6, 4-6, 10-7. Après l'annulation de la seconde demi-finale du double, la soirée s'est clôturée par les deux derniers quarts de finale du tournoi de simple. Le Français Arthur Géa, porté par le public, n'a laissé aucune chance à la tête de série numéro 2, le Canadien Liam Draxel. Victoire 6-3, 6-2.
Super content d'avoir gagné ce match hier, un gros match très physique avec qui n'était pas facile parce qu'il y avait beaucoup de vent, donc les conditions n'étaient pas simples à jouer. Mais j'ai réussi à m'en sortir, j'ai joué avec mon physique, avec mon coup droit, mes armes quoi. Et ça s'est super bien passé, il y avait le public qui était derrière, tout le monde était là, donc c'est clair que ça fait plaisir. Et ben voilà, encore merci à tout le monde et je les attends encore pour la demi ce soir.
En demi-finale, Arthur Géa sera opposé à Michael Zeng, tête de série numéro 6, tombeur d'un autre Français. Clément Tabur en 3-7, 3-6, 6-4, 6-2. Ce vendredi, la finale du double débutera à 15h sur le court central Ngodrella. Les demi-finales du simple sont prévues à 17h15 et à 20h.
Et comme tous les jours de la semaine, Léon, on vous retrouvera à 17h en direct des cours du Wentoro pour une émission spéciale. Ce sera la dernière de la semaine. Vous serez ce soir en compagnie de Lionel Tri, de Mélodie Dahl, de Maxime Chazal et de Frédéric Stotz. Il est 11h55. Restez bien avec nous parce que le sport, c'est à suivre encore après cette pause. Ce sera la grande rétro 2025 des événements sportifs sur la scène nationale et internationale.
RRB, pour être les premiers et les mieux informés.
Ce mois-ci, You by Kotex s'engage aux côtés des femmes. Pour chaque paquet de serviettes hygiéniques achetées, 20 francs sont reversés à l'association Les Kimonos du Cœur. L'association agit sur le terrain pour informer, accompagner et aider les jeunes filles à aborder cette étape avec confiance. You by Kotex, force par nature, solidaire par choix. Plus d'informations sur le Facebook Sakebon NC.
Vous rêvez d'espaces de rangement supplémentaires? DCSM vous propose des placards et des dressings sur mesure adaptés à vos besoins.
Venez concevoir votre aménagement avec notre équipe, 5 route de la Baie des Dames à Ducos, 27 74 20 ou sur Facebook.
Alerte chaleur maximale chez Subaru. L'été fou de Subaru revient. Les prix fondent et les sensations montent. Le Crosstrek, le Forester et l'Outback vous attendent. Robuste, fiable et taillé pour l'aventure avec des offres de folie. Direction Subaru au village automobile à Nouméa au PK4 ou chez NC Motors Kone pour en profiter dès maintenant.
Offre valable jusqu'au 31 janvier 2026 dans la limite des stocks disponibles, voire conditions en concession.
Construisons notre pays, économisons l'énergie.
RRB, pour être les premiers et les mieux informés.
La suite d'Infomag, on retrouve Jean-François Baudin.
RRB, rétro 2025.
La suite de nos grandes rétrospectives 2025, consacrées ce midi au sport sur la scène nationale et internationale. Après une année 2024 qui avait été marquée par les Jeux Olympiques et Paralympiques à Paris, on ne pensait pas pouvoir revivre autant d'émotions en 2025, mais le sport est toujours là pour nous réserver des surprises, comme on va le voir dans cette rétrospective avec Michael Juneski.
Et en point d'orgue, le football avec le sacre du PSG en Ligue des Champions au mois de juin. 32 ans après l'Olympique de Marseille, la grande année enfin pour le Paris Saint-Germain qui a surclassé l'Inter Milan en finale, 5-0. Une joie immense pour le capitaine de Paris, Marquinhos.
C'est un rêve pour moi. C'était un projet et je pense que le projet ne s'arrête pas là. On avait toujours dit que ça a été un objectif, mais ce n'était pas une obsession, ce trophée. Et voilà, aujourd'hui, on a réussi, on est tous heureux, on est libéré d'énergie. Et maintenant, il faut continuer. Moi, c'est ça qui fait le foot, c'est ça qui fait le sport, c'est ça qui... Et c'est comme ça, des jours de gloire et des jours difficiles. Et il faut les jours difficiles, il faut serrer les dents. Les jours de gloire, on est là pour célébrer ensemble aussi.
Une finale remportée sous les yeux d'Antoine Comboiré, commentateur pour M6. Victoire qui aura aussi permis au Français Ousmane Dembélé de remporter le Ballon d'Or. Kylian Mbappé s'est consolé avec le soulier d'or, meilleur buteur européen au Real Madrid. Petite désillusion en revanche en finale de la première Coupe du Monde des clubs, nouvelle formule pour Paris. Le PSG s'est incliné contre les Anglais de Chelsea 3-0. Et du côté des sélections nationales, l'équipe de France a terminé 3e de la Ligue des Nations. Ligue des Nations remportée par le Portugal contre l'Espagne. Les Bleus ont pour leur part battu l'Allemagne 2-0 dans la petite finale. De belles émotions aussi en rugby avec le 15 de France qui a gagné le tournoi des 6 Nations 2025. Malgré la blessure de Dupont, le 15 de France a vécu une bonne année. Les hommes de Fabien Galtier ont remporté ce tournoi sans réaliser le grand chelem, mais en dominant l'Irlande chez elle et en terminant sur une victoire contre l'Écosse. C'était le 16 mars dernier. Peato Mouvaka Yoram Moefana était de la partie sous le maillot bleu. Le fils du président de l'URC Dimbéa avait été élu homme du match avec un doublé, Yoram Moefana.
Ça fait du bien, on est tous contents. On a échoué en Angleterre, donc voilà, on est rentré, on s'est reposé et après on est revenu avec une belle mentalité pour aller chercher de pouvoir jouer la gagne et on l'a fait. C'était dur quand même parce que l'Écosse c'est une équipe qui joue. On a pu voir que voilà, il fallait pas s'endormir, il fallait toujours être réveillé, mais on l'a fait. Et je suis très content pour l'équipe.
Du côté des clubs, Yoram Moefana aura aussi vu l'Union Bordeaux-Bègles gagner la Champions Cup en battant Northampton en finale 28-20. Toulouse a de son côté conquis son 3e bouclier de Prénus d'affilée en battant l'UBB en finale 39-33. Toujours du côté des sports collectifs, du handball avec l'équipe de France féminine et la calédonienne Suzanne Wajoka qui ont terminé le mondial avec la médaille de bronze après une victoire au bout des prolongations sur les Néerlandaises 33-31. Les Français aussi, plus tôt dans l'année, ont terminé le mondial masculin à la 3e place. Et puis les Bleus du tennis de table sur la lancée des JO de Paris avec les frères Lebrun en chouchou du public ont remporté le titre de champion d'Europe par équipe 27 ans après le dernier sacre tricolore. Les mondiaux d'athlétisme à Tokyo, c'était au mois de septembre avec le sacre de Jimmy Gressier qui a gagné le 10 000 mètres au terme d'une dernière ligne droite impressionnante. Un véritable sprint pour devancer l'Éthiopien Yomif Kaleja, Jimmy Gressier.
Aujourd'hui, je réalise mon rêve de gamin. J'ai commencé la course à pied pour ça. Aujourd'hui, je peux dire que j'ai réussi ma carrière. Un titre de champion du monde, on me l'enlèvera pas celui-là.
L'athlétisme qui aura également vu le Suédois Armand Duplantis battre le record du monde du saut à la perche à 6,30 m. En natation, les mondiaux où étaient engagés le Calédonien Maxime Grousset ainsi que le jeune Etam Dumesnil auront surtout vu la star française des JO Léon Marchand revenir avec deux titres mondiaux et un nouveau record du monde sur le 200 mètres 4 nages. Du côté des sports d'hiver, au mondiaux de biathlon, l'équipe de France a terminé avec 13 médailles en tête du classement des nations. Avec 6 titres de champion du monde, les Bleus finissent en tête devant la Norvège et la Suède. En tennis, Carlos Alcaraz est resté le roi de Roland-Garros et du circuit mondial en fin d'année. Avec un affrontement contre Yannick Sinner, l'Espagnol a notamment remporté Roland-Garros mais aussi l'US Open. L'Italien, lui, a remporté le Masters de fin de saison à Turin après avoir gagné Melbourne et Wimbledon. 2025, côté français, aura été marqué par l'ascension de Loïs Boisson sur la terre battue parisienne. Elle s'est hissée jusqu'en demi-finale de Roland-Garros. Une grande année en voile pour un navigateur. Le Vendée Globe aura vu Charlie Dalin battre le record de l'épreuve. 64 jours, 19 heures et 22 minutes pour ce tour du monde en solitaire, sans escale, sans assistance.
Ah, des émotions dingues, j'ai jamais vécu ça. J'étais tellement heureux de franchir cette ligne avec la lumière qui pointait, c'était sur cette eau lisse, on laissait avec le bateau qui glissait, qui volait sur l'eau, c'était fabuleux et c'est une explosion d'émotion dans ma tête, voilà, vraiment une joie immense de franchir cette ligne. C'était un moment fabuleux, c'est de loin ma plus belle ligne d'arrivée de toute ma carrière, mais vraiment de loin, quoi.
Charlie Dalin qui a été élu à l'unanimité marin de l'année 2025 par ses pairs. Les sports mécaniques et un nouveau titre de champion du monde des rallyes pour Sébastien Ogier, le Français qui a décroché sa 9e couronne en WRC à l'âge de 41 ans et alors qu'il ne prend pas part à la totalité des épreuves du championnat du monde, il a réussi à récupérer son titre mondial en terminant 3e de la grande finale en Arabie Saoudite. Il avait tout raflé de 2013 à 2018 en succédant à Sébastien Loeb, déjà 9 fois champion du monde des rallyes, puis encore titré en 2020 et 2021. 4 ans plus tard, le sacre en 2025. Désormais, les deux Français, Sébastien Ogier et Sébastien Loeb, sont ex aequo les deux pilotes de rallye les plus titrés. Réaction de Sébastien Ogier.
Bien sûr qu'on est heureux de rejoindre une telle légende. Seb, j'espère que tu m'accueilles bien au club des neufs. Je te laisse ton numéro 9 pour la course, pas de problème. Mais bien sûr que c'est génial de rejoindre Seb et Daniel, de pouvoir être tout en haut du palmarès du WRC et puis de la FIA en général. Donc c'est une fierté qu'on devrait avoir en tant que Français. Plus que ce chiffre, pour moi aujourd'hui, c'est les émotions et les sensations que j'ai encore eues cette année dans la voiture, qui a peut-être été ma plus belle saison en termes de performance et de régularité. Donc c'est génial de pouvoir faire ça à bientôt 42 ans. Quoi.
Sébastien Ogier, champion du monde, alors qu'il avait manqué 3 dates au calendrier cette saison en Suède, au Kenya et en Estonie. Il est en semi-retraite depuis la saison 2022 et ne court que sur des étapes choisies. Sur deux roues, on soulignera que Joan Zarco a gagné le Grand Prix de France dans MotoGP. Un exploit à l'âge de 34 ans sous la pluie au Mans devant le futur champion du monde 2025, Marc Marquez. Joan Zarco est devenu donc le premier tricolore à lever les bras en vainqueur devant le public français depuis Pierre Monneret en 1954.
C'est incroyable. Comme j'en dis souvent, on a du mal à réaliser tout ça, mais c'est vrai, c'est difficilement palpable. Il y a ce moment avec le public, ça donne des décharges d'émotions. On a envie de pleurer, il y a quelques larmes qui passent. On savait que la pluie allait arriver et je suis resté en piste. Je tenais mon rythme, j'essayais d'améliorer, de contrôler. Et le fait de continuer à prendre de l'avance, ça m'a rassuré. À chaque fois, je cherche à tout faire pour gagner les Grands Prix. Et là, je le gagne. Mais j'ai l'impression que il fallait attendre. C'est assez bizarre.
Enfin, du côté de la Formule 1, la saison nous aura tenus en haleine jusqu'à son dénouement et la victoire de Lando Norris devant Max Verstappen. Isaac Hadjar est tout de même devenu le plus jeune Français à monter sur un podium de F1 aux Pays-Bas à l'âge de 21 ans. En cyclisme, sur le Tour de France, Tadej Pogacar a encore impressionné en gagnant pour la 4e fois de sa carrière la Grande Boucle avec plus de 4 minutes d'avance sur le Danois Jonas Vingegaard. Pogacar, le cannibale slovène, plus que jamais sur le toit du monde du cyclisme.
C'était un magnifique final aujourd'hui.
Je suis sans mots.
Gagner 4 Tours de France. Sur le podium, 6 ans d'affilée.
Incroyable.
Je ne peux pas être plus fier que porter ce maillot jaune.
Pogacar qui aura aussi conservé son titre de champion du monde à Kigali, au Rwanda, sans oublier un titre de champion d'Europe, là où le français Paul Sexas a terminé avec le bronze. Et un cocorico chez les féminines pour Pauline Ferrand-Prévot qui s'est elle imposée sur la grande boucle chez les dames, une première pour une tricolore depuis Jeannie Longo. Enfin en golf, Rory McIlroy a fini par décrocher le seul titre qui lui manquait cette année. Le Nord-Irlandais a remporté les Masters d'Augusta. Il a aussi joué un rôle clé dans la victoire de l'Europe sur les États-Unis lors de la Ryder Cup.
Voilà une année 2025 en sport sur la scène nationale et internationale pour poursuivre nos grandes rétrospectives de l'année que vous retrouvez après leur diffusion sur notre site internet. Je vous rappelle que nous sommes déjà revenus sur l'année en Nouvelle-Calédonie, hors politique, sur l'année en métropole, l'année dans le monde, l'année sport sur la scène nationale et internationale. Et ce soir, place à une année sport en Calédonie en 2025 qui a été aussi très riche, comme nous le verrons donc à l'issue du journal de 17h45. En attendant, il est midi 6. C'est la fin de ce journal. Mes Infomag se poursuit avec Thierry jusqu'à 13h. Je vous souhaite une belle après-midi.
L'Infomag continue avec le Village Automobile. Chevrolet, Citroën, DS Automobile, Great Wall, Haval, Isuzu, Mercedes-Benz, Opel, Peugeot, Power et Subaru. C'est 11 grands